Radio Pleine Lune sur 93.8 MHz comme tous les mercredis. Vous avez vu, la lune arrive, la lune se dévoile et vous serez avec nous jusqu'à 20h en direct. Je vous rappelle que Radio Pleine Lune, Onde Femme, c'est aussi un numéro de téléphone pendant nos émissions en direct, donc jusqu'à 20h au 50 40 51 41 023 depuis Genève, 0033 depuis Delémont. Les nouvelles tout de suite après un peu de musique et qui sera suivie après par le memento culturel, les coups de cœur donc de Marjolaine. Les nouvelles sur Radio Pleine Lune. D'abord, une nouvelle tout de suite, donc une nouvelle nationale. Vendredi prochain est organisée une journée nationale d'action pour une assurance maternité. Vendredi prochain, le 25 novembre, les comités pour une véritable assurance maladie organisent une journée nationale d'action pour la mise sur pied d'une véritable assurance maternité. Nous avons interviewé Valérie Boux, active dans le comité genevois, pour nous parler de l'état des lieux sur l'assurance maternité. Comme première question, nous lui avons demandé quelle est la signification du 25 novembre dans la douloureuse histoire de l'assurance maternité.
Le 25 novembre 1945, les citoyens suisses, à l'époque c'était que des hommes qui votaient, les citoyens suisses ont accepté une modification de la Constitution qui prévoyait l'institution d'une assurance maternité. Alors ça fera exactement 49 ans que nous attendons la concrétisation de ce mandat constitutionnel et il n'est toujours pas réalisé.
Donc c'est en fait une triste histoire, c'est un long accouchement, hein, l'histoire de l'assurance maternité comme... Mais maintenant, en fait, en 1994, il y a enfin un avant-projet sur l'assurance maternité qui est en consultation et les comités dont tu fais part le soutiennent. Qu'est-ce qui prévoit ce projet ?
Alors, ce projet prévoit une assurance maternité pour les femmes salariées et les indépendantes avec un congé de 16 semaines payé. Il prévoit par contre un espèce de délai de carence, c'est-à-dire qu'il faut être assuré au moins depuis 9 mois. Il prévoit également 4 semaines de congés payés pour l'adoption, en cas d'adoption. Donc pour nous, c'est un projet qui est important, mais qui est minimal. Donc c'est vraiment la mesure minimale absolument indispensable et on pense que ça a un caractère d'urgence. Il faut rapidement que ce projet entre en vigueur. Simplement, on estime quand même que ce projet, il est insuffisant. Il est insuffisant parce qu'il prévoit notamment la possibilité de prendre 4 semaines sur les 16 semaines de congé maternité, mmh. il prévoit qu'on peut prendre les 4 semaines avant l'accouchement.
Morcelé, donc, les 16 semaines.
Morcelé. Alors, nous, on estime que ça doit être... Les 16 semaines doivent être prises complètement après l'accouchement, parce que c'est indispensable. On est également opposé à ce délai de carence de 9 mois, parce qu'il se trouve qu'un certain nombre de femmes vont être pénalisées lorsqu'elles arrivent sur le marché du travail, par exemple. Alors, elles n'en auraient pas, elles ne pourraient pas en bénéficier. Donc, on estime que ce délai de carence devrait être annulé. On estime également que, au fond, ce projet de loi, il répond pas à toutes les exigences qui découleraient d'une vraie politique familiale. Alors, notamment, un certain nombre de mesures, un certain nombre de mesures qui protégeraient la travailleuse qui est enceinte, donc sur son lieu de travail. La possibilité aussi, évidemment, de prolonger ce congé maternité par un congé parental. On estime qu'au minimum, ce congé parental devrait assurer le poste de travail, c'est-à-dire de pouvoir revenir à son poste après ce congé, et évidemment de le rétribuer dans le meilleur des cas. On estime également que... les femmes qui ne sont pas salariées devraient toucher des indemnités particulières en fonction du revenu familial, en quelque sorte.
Parce que, en fait, toutes ces revendications annexes ou comment complètes pour compléter l'assurance, pour en faire une assurance maternité complète, en fait, toutes ces exigences que tu viens de mentionner, en fait, elles sont remises en question. En fait, on ne peut pas maintenant les demander, étant donné que si on les demande maintenant, on ferait capoter la loi.
Non, disons, comme on est dans un processus de consultation, on a effectivement fait part de ces demandes. On estime que l'avant-projet peut être encore modifié puisqu'il est soumis à la consultation et qu'un certain nombre de ces revendications vont être intégrées à ce projet de loi. Maintenant, il se trouve qu'un certain nombre de forces en Suisse ne souhaitent carrément pas d'assurance maternité du tout. Les organisations, les grandes organisations patronales se sont exprimées dans ce sens en disant que ce n'était pas indispensable ni urgent d'ailleurs. Et puis d'autres considèrent que, au fond, il faudrait une espèce d'assurance maternité pour toutes les femmes, qu'elles soient salariées ou non. Simplement, le projet, c'est de donner une indemnité qui serait relativement basse, qui tournerait autour des 1200-1500 francs. Et c'est évident que pour une femme salariée, ce revenu serait parfaitement insuffisant. Donc on n'est pas d'accord avec ce principe. Donc évidemment que le débat est aujourd'hui ouvert et le projet définitif qui sera soumis aux chambres, on n'en connaît pas le contenu. Mais notre objectif, en menant ces différentes actions en Suisse et à Genève en particulier, c'est justement de faire en sorte que ce projet soit le meilleur possible et qu'il intègre nos revendications.
D'accord. Et donc, à Genève, vendredi prochain, le comité donc, pour une véritable assurance maternité organise un programme. Qu'est-ce que vous allez proposer pour ce 25?
Alors, le programme de la journée genevoise commence par un rassemblement devant la maternité à 13h, entre 13 et 14h.
C'est aussi symbolique, parce que la maternité attend aussi, depuis aussi quelques décennies, sa rénovation.
Exactement. Bon, maintenant, effectivement, le principe de sa rénovation a été voté, mais c'est effectivement toujours le parent pauvre de la politique sociale en Suisse. Alors, effectivement, c'est un rassemblement qui se voudra symbolique, entre 13h et 14h à la maternité. Il y aura un stand d'information, un certain nombre de choses qui vont s'y dérouler. Nous ferons également signer notre manifeste qui reprend les différentes revendications que nous avons. Ensuite, la journée se poursuivra par une soirée d'information et de débat. Elle démarrera à 18h30 et durera jusqu'à 21h. Le lieu de rendez-vous est à l'université ouvrière, aux 10 rue du Cercle. Alors cette soirée se passera de la façon suivante. Tout d'abord, nous présenterons un projet d'exposition itinérante que le comité met sur pied. Cette exposition, en principe, tournera à partir du printemps prochain dans les différentes villes en Suisse. C'est une grande lessive qui pourra donc, c'est une exposition qui sera installée en plein air et puis elle présentera, elle aura un caractère d'information sur le problème de l'assurance maternité en Suisse. Donc nous présenterons ce projet, il y aura également la maquette, enfin un certain nombre d'informations là autour. Ensuite, nous aurons les petites femmes silencieuses qui viendront nous faire une animation théâtrale. Nous aurons et nous terminerons la soirée par un exposé de Madame Béatrice Desplans, qui est secrétaire centrale de l'USS, et qui présentera justement le contenu plus en détail que j'ai pu le faire sur l'assurance maternité, quel est son contenu et surtout quel mode de financement. Alors effectivement, je n'ai pas parlé du financement tout à l'heure. Ce financement est prévu dans cet avant-projet, un financement style AVS, c'est-à-dire paritaire sur les salaires, payé par tous les salariés, hommes et femmes. Pour les indépendants, ils contribuent également, ils contribueraient sur le modèle AVS. Donc cet exposé de Béatrice Desplans sera suivi d'un débat. Et puis, bien sûr, il y aura de l'information, des stands, du vin chaud, tout ce qu'il faut pour faire une bonne soirée.
D'accord, merci beaucoup.
Et là, nous passons au Bangladesh, une interview de Taslima Nasrin, écrivaine et féministe du Bangladesh, où elle a été condamnée à mort. Taslima Nasrin, qui a été condamnée à mort par les intégristes musulmans du Bangladesh après la publication de son roman Laïa, qui décrit les discriminations dont furent victimes les hindous du Bangladesh lors des événements de décembre 92, sera ce soir l'invitée de l'émission Marche du siècle sur France 3. Taslima poursuit son combat contre l'intégrisme en Europe où elle a trouvé refuge en Suède. Après la France, elle viendra en Suisse romande. Pour préparer son arrivée, la Tribune de Genève publie une interview avec Taslima dont nous vous lisons quelques extraits. D'abord, une question du journaliste. Au Bangladesh, même la plupart des progressistes ne vous ont pas soutenu lorsque vous critiquiez le Coran. Vous disiez déjà vous sentir seul. Personne ne partage donc votre combat. Et voilà ce que Taslima répond. Mon pays compte beaucoup d'hommes et de femmes de progrès, mais qui préfèrent ne pas affronter directement le fondamentalisme. Ils cherchent un compromis, alors qu'à mon sens, le temps du compromis est passé, car l'intégrisme est en train de détruire notre société. Elle continue en disant « Dans mon livre, je m'intéresse à des événements précis qui ont eu lieu en décembre 92, au cours desquels la minorité hindoue a été victime d'une vague de violence et de discrimination. J'ai critiqué en d'autres occasions la religion hindouiste. Toute religion engendre des discriminations, notamment à l'égard des femmes. C'est la raison pour laquelle les États devraient tous être séculaires. » Une autre question du journaliste. Votre livre et vos propositions à l'égard de l'islam vous ont valu de violentes critiques, même de la part des progressistes, ainsi qu'une condamnation à mort. Ne regrettez-vous pas d'avoir écrit tout cela? Elle répond « Non, des milliers de femmes au Bangladesh, en Inde et ailleurs ont lu et aimé mon livre. » Il a contribué à éveiller leur conscience au point que les fondamentalistes s'en inquiètent aujourd'hui. Ils estiment que la religion et l'épanouissement des femmes sont incompatibles. Toujours au Bangladesh, deux femmes se disputent le pays. En toile de fond, c'est l'histoire récente du pays qui arrache dans le sang son indépendance au Pakistan en 1971 sous la houlette de Mujibur Rahman, assassiné après à la suite d'un putsch en 1975. Sa fille Sheikh Hasina prend alors la tête de son parti, la Ligue Ahwawi, pour éviter son éclatement. Une tentative avortée du coup d'État militaire aboutit en 81 à l'assassinat du président Ziaur Rahman, dont la veuve Khaleda hérite de la direction du parti national qu'il avait fondé. Après le putsch, un autre putsch du général Ershad en 82, les deux femmes se sont battues chacune de leur côté avec leurs troupes pour renverser le régime militaire sans jamais parvenir à s'entendre entre elles. Les élections de 91 ont porté la Begum Khaleda au poste de Premier ministre, tandis que Sheikh Hasina devenait la chef de l'opposition parlementaire. Mais depuis mars dernier, l'opposition boycotte le Parlement et exige qu'un gouvernement intérimaire soit créé afin d'organiser des élections anticipées. La situation n'a cessé de se dégrader avec une multiplication de débrayages, de blocus routiers et ferroviaires et une nouvelle grève générale de 48 heures est prévue pour les 7 et 8 décembre après le succès de celle qui de début novembre. Il ne faut pas oublier que le Bangladesh est l'un des pays les plus pauvres de la planète, qu'il est surpeuplé et que les ressources sont limitées. Il n'est donc guère étonnant que les principales victimes des rivalités politiques soient les plus démunis, les bouddhistes et les hindouistes, sans parler des enfants. Ainsi, faute de structures d'accueil et de responsabilité patronale, un projet de loi visant à scolariser des enfants de moins de 14 ans travaillant dans les fabriques textiles vient d'être ajourné. Les responsables de l'aide sociale ont déclaré que cela pourrait mener à une hausse de la criminalité et de la prostitution. En Allemagne, Libération d'Irmgard Möller, membre de la RAF, la fraction Armée Rouge. Irmgard Möller, 47 ans, membre de la fraction Armée Rouge, condamné à perpétuité pour avoir participé à l'attentat contre l'état-major américain Heidelberg en 72, a été libéré sur parole jeudi dernier. C'est la femme qui a purgé la plus longue peine de prison dans l'histoire de l'Allemagne. Seule survivante de la nuit de la mort, comme on l'appelait en 1977, pendant laquelle trois chefs de la RAF s'étaient suicidés en prison, elle a mené 12 grèves de la faim en 22 années de détention. Plusieurs personnalités, y compris le directeur de sa prison, avaient réclamé sa libération. Irmgard Möller, qui avait 25 ans au moment des faits qui lui ont été reprochés, a toujours revendiqué le bien fondé de ses actes, déclarant, je cite, que la lutte armée était légitime. En France, des chiffres le montrent, la pauvreté se décline de plus en plus au féminin. D'année en année, l'exclusion touche davantage les femmes. Elles constituent la moitié des 900 000 allocataires du RMI. Et sur le terrain, les associations caritatives voient grandir le nombre de femmes qui, seules ou avec des enfants, demandent une aide pour l'essentiel, ressources, nourriture, logement. Les femmes sont davantage touchées par le chômage que les hommes, 12% contre 8%. Le 1,5 million de femmes élevant seules leurs enfants connaît un taux record de chômage. Il s'élève à 17%. Prise en charge des vacances des enfants, remplacement d'une machine à laver, aide au surendettement, les secours demandés par les femmes sont variés. À Metz, Yvette Rollin, directrice d'un centre d'accueil qui héberge 80% de femmes, est formelle. Contrairement à ce que l'on croit, les centres d'accueil ne sont pas remplis de SDF. Les femmes forment notre clientèle ordinaire. Ces femmes sont des gens comme vous et moi. À Genève, des chiffres sur, concernant le sida. Le nombre de séropositifs à Genève pourrait s'être stabilisé depuis 1991. Le département de l'action sociale et de la santé a fait le point chiffré du sida à Genève. 200 personnes ont été nouvellement dépistées séropositives à Genève en 1994. Un chiffre à considérer encore avec prudence. Bernard Hirschel, médecin adjoint au département de l'action sociale et de la santé, affirme en effet que ce chiffre est encore provisoire en attendant les résultats définitifs. L'ordre de grandeur semble toutefois donné et indiquerait une stabilisation par rapport à 1993, 200 personnes, et une baisse en regard de 1992 et de 1991. Reste que le taux d'hommes et de femmes atteints par le VIH dans la population reste élevé à Genève. Quelque 3000 personnes dépistées vivent actuellement dans le canton. Les chiffres du laboratoire central de virologie montrent également un changement de structure dans les nouveaux cas de sida. En 1991, par exemple, près de 50% venaient du groupe des toxicomanes. Cette année, les chiffres semblent indiquer une forte baisse de ces cas grâce à la politique de prévention dans ce milieu, pas d'échange de seringues. En revanche, le nombre des cas de sida dus à une transmission hétérosexuelle augmente et pourrait, pour la première fois cette année, dépasser celui des toxicomanes. Je vous rappelle que le 1er décembre, c'est la journée internationale autour du sida. Et à Genève, il y a des manifestations qui sont organisées. Donc, dans le cadre de cette journée, une série de manifestations sont prévues à Genève. Le point fort sera constitué par un grand cortège le samedi 26 novembre, organisé par le groupe Sida Genève, le ministère Sida, les personnes vivant avec, ainsi que dialoguer. Il débutera à 14h devant l'entrée de l'hôpital cantonal pour se diriger vers les rues basses où le vin chaud attendra les manifestants. Des animations musicales sont prévues. Le passage vers l'hôpital n'est pas anodin. Dialoguer veut profiter de l'occasion pour souligner les problèmes de confort et de confidentialité pour les personnes en fin de vie qui apparaissent dans l'établissement. Cette manifestation s'intitulera « Combien de temps ?» Un portrait, une portrait d'une chanteuse qui nous vient d'Iran. Et elle a été condamnée au silence en Iran depuis l'arrivée de Khomeini en 1979. Elle s'appelle Marzieh, grande chanteuse classique. Elle a finalement décidé à 70 ans de quitter son pays et de venir à Paris pour rendre vie à sa voix. Son concert prévu la semaine prochaine a été interdit par le ministre de l'Intérieur. Peu après son retour de Paris, donc en 1979, l'imam Khomeini l'avait exigé. Les femmes ne doivent pas chanter, l'islam l'interdit. Le chant de Marzieh s'est tu. Les grands poètes iraniens qu'elle interprétait ont perdu ce souffle qui connaît leur extase. Pendant 15 ans, Marzieh la diva, Marzieh la légende, Marzieh qu'on écoutait aussi bien les grands du monde que les petits gens de Téhéran, va vivre comme une recluse dans un village près de la capitale. « Je n'ai chanté que pour les oiseaux, la rivière et la forêt », dit-elle. Elle n'a jamais eu l'illusion sur la révolution islamique. J'ai vécu dans une famille de religieux, je savais quelle sorte d'animaux ils sont. Ils considèrent la femme comme moins que rien et elle ne doit être qu'à leur service. Après la mort de l'imam, comme il dit, le régime qui s'assouplit lui demande de chanter, mais seulement devant les femmes. Même si elle en souffre, elle refuse. Et en juillet de cette année, elle décide finalement de s'envoler pour Paris pour y briser le silence. Elle retrouve à 70 ans sa liberté et en même temps, la diva rejoint l'organisation des Moujahidines du peuple, donc qui s'oppose au régime des Mollahs de l'Iran. Son engagement, elle explique par sa fascination pour Mariam Rajavi, qui est la co-leader de l'organisation qu'il a désignée future présidente de la République. Pour moi, c'est un devoir de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'on la porte au pouvoir à Téhéran, dit Marzi. C'est une femme exceptionnelle. Un exemple, elle a osé choisir son mari, décider de son mariage, réciter les formules qui lient les deux époux. Ça ne s'était jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Avant, c'était à l'homme que revenaient ses responsabilités. Il est difficile pourtant, selon le journaliste, d'imaginer un accord parfait entre cette femme, donc la chanteuse qui est rigolarde, jamais voilée et qui vous sert volontiers la main, et Mariam, donc Mariam Rajavi, qui est donc la co-leader des Mohajin du peuple, qui elle, plutôt est distante, toujours couverte d'un strict foulard et qu'on ne peut saluer qu'à distance. En France, Marzi, la chanteuse, allait enfin pouvoir faire aimer cette voix qui se risque jusqu'aux cimes les plus aiguës et aux graves les plus profonds. Le concert était prévu pour le 4 décembre. Le régime iranien, décidé à l'empêcher, a retenu sa fille Hengame en otage. Marzi n'a pas cédé. La semaine dernière, c'est Charles Pasqua qui est venu à la rescousse de Téhéran et interdit son concert, dénonçant son caractère politique, à moins que le ministre de l'Intérieur n'ait pas voulu froisser l'Iran à l'heure où se déroule le procès des assassins de Bakhtia. Avant de passer le micro à Marjolaine pour ses coups de cœur culturels, j'ai juste quelques annonces à vous faire concernant aussi des rendez-vous. Alors tout de suite ce soir, mercredi à 20h, il y aura l'Assemblée générale de l'Espace Femmes International. Et l'Assemblée générale invitera aussi Anne Svalen, chargée de projet de formation gender pour la coopération technique suisse. Elle parlera de son expérience sur le thème femmes et développement. L'Assemblée générale a donc lieu à EFI, rue de la Tannerie 2, à Carouge. Un autre rendez-vous important, c'est un colloque qui est organisé le vendredi 2 décembre, donc dans une semaine, par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes. Et le thème du colloque, plus de 200 ans de droits de l'homme, de l'exclusion des femmes à une révision des droits humains. Le programme, après l'accueil par Patricia Schulz, chef du Bureau fédéral de l'égalité, à 10h15, il y aura un exposé à 10h30 de Anne-Marie Baronne, avocate à Genève. Et le sujet, c'est les droits humains. Humains ont-ils un sexe? Esquisse de l'évolution du concept de droit humain. À 11h30, un autre exposé de Masha Madurin, économiste, qui va nous parler des droits de la femme dans la politique économique internationale. Et à 12h15, Ratna Kapoor, avocate qui nous vient du New Delhi, qui va faire une conférence en anglais, Beyond Vienna, The Global Campaign on Violence Against Women and Human Rights. Et à 13h15, il y aura un déjeuner. L'après-midi, des groupes de travail se réuniront autour des sujets des conférences qui auront été présentées par ces oratrices. Donc, si vous voulez avoir l'adresse de cette rencontre, vous nous téléphonez au 50 40 51 41. Et un autre rendez-vous, cette fois-ci, ce sera samedi prochain, un mois avant Noël, le collectif 14 juin, celles qui ont organisé la grève des fermes ou qui veulent continuer la mémoire de la grève des femmes de 91, organise un marché aux puces fuchsia au centre de loisirs des Astères, 47 rue Chaube, de 10h à 14h, samedi, donc prochain 26 novembre. Il y aura des stands, vaisselle, articles de ménage, bibelots, bijoux, tableaux en très bon état, l'artisanat de Camille Martin, et on pourra acheter le livre Fuchsia, des magnifiques photos sur la grève des femmes à Genève. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, un peu de musique avant de passer le micro à Marjolaine. Je vais vous faire écouter Cassandra Wilson, son nouvel album qui vient de sortir, et on écoute Come On In My Kitchen.